Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les couilles sur la table, épisode 28. Les gars du coin. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la masculinité populaire rurale, c'est-à-dire aux valeurs, aux pratiques, aux façons d'être des hommes quand on est ouvrier, artisan, employé et qu'on ne vit pas en ville. Je vous propose donc de passer un moment à la campagne, dans les cantons du Grand Est de la France, dans le genre de coin qu'on dit paumé, les coins pas très touristiques. Et c'est vous, Benoît Coquart, qui allez nous y emmener. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sociologie à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous enseignez à l'Université de Dijon et vous venez de soutenir votre thèse en sociologie intitulée « Sauver l'honneur, appartenance et respectabilité en milieu populaire rural ». Et vous allez sûrement en faire un livre.
Sûrement, oui, j'espère.
Vous avez passé 2 ans et demi en immersion dans ce village en Haute-Marne à fréquenter un groupe d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des hommes, qui ont entre 18 et 40 ans, surnommée la bande à Boris. Et à partir de ce que vous avez observé dans ce groupe particulier, vous montrez ce que peut être cette forme de masculinité populaire rurale. Alors, il faut préciser d'emblée que c'est un milieu que vous connaissez très bien, puisque vous y avez grandi et vous y êtes revenu comme sociologue. Ça vous a mis dans une drôle de position, ça, non ?
Oui, parce que c'est pas une trajectoire très courante. En fait, quand on quitte le milieu rural, c'est très difficile d'y revenir. Parce qu'une fois qu'on est diplômé, qu'on a fait ses études, on n'est pas censé aller travailler en tant que, je sais pas moi, ouvrier agricole, ouvrier industriel, artisan. Donc le travail qu'on va trouver, il est en ville. Et aussi, il y a une forme de coupure biographique forte, c'est-à-dire que quand on va vivre en ville, qu'on devient un étudiant, on accède à d'autres formes de pratiques culturelles. Et les gens du coin, ceux qui continuent de rester vivre là-bas, ils ont tendance à vous oublier. Et il y a une coupure qui se fait assez jeune, après le bac généralement, entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et moi, je suis celui qui revient, alors même que j'aurais dû rester là-bas, partir en ville. Quand j'arrive justement, que je reprends ma thèse, on me dit « mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Pourquoi tu viens t'intéresser à nous ? Quel intérêt de faire une thèse sur nous ? Ça n'intéressera personne, personne ne parle de nous. Et en plus, pourquoi toi, t'es pas resté en ville si la vie est meilleure là-bas ?»
Bah alors justement, pourquoi vous êtes revenu ? Pourquoi vous vous êtes intéressé à eux ? Pourquoi vous avez choisi ce terrain ? Parce que c'est le terme qu'on utilise en sociologie, en anthropologie, d'avoir un terrain. Pourquoi vous avez choisi le terrain où vous avez grandi ? Donc ce milieu rural dans l'Est de la France.
En fait, moi je venais de terminer je pensais que j'avais terminé mes études de sociologie après mon master. J'avais fait un mémoire sur les jeunes de cité, donc à Saint-Denis. Et en fait, ce que j'avais trouvé chez eux, dans leur style de vie, ça me rappelait énormément en fait mon village, des amis d'enfance, le milieu duquel je venais. Alors même que finalement, quand on écoute le discours public sur jeunes de cité, jeunes ruraux, on a l'impression que tous les opposent, qui sont à chaque bout du spectre comme ça de la jeunesse, mais en fait ils ont des conditions de vie assez similaires, et notamment dans les sociabilités masculines entre mecs, ça parle un peu des mêmes choses, ça espère se réaliser dans la vie avec les mêmes projets, et donc je me suis dit ça serait intéressant de mettre un peu la lumière sur ces jeunes ruraux. Et il n'y avait pas eu énormément de livres écrits dessus. Il y en avait eu un qui était très bon, qui était Les gars du coin, de Nicolas Rinaï. Et moi, j'avais un peu l'ambition d'actualiser ça. Lui, son enquête était dans les milieux des années 90. Moi, j'arrivais dans les années 2010. Je trouvais que les choses avaient changé et qu'il fallait en parler.
Très bien. Ce village, donc, vous l'appelez Fombourg. Bon, alors j'ai voulu voir à quoi il ressemblait en le cherchant sur Google Maps, mais je ne l'ai pas trouvé raté. Parce qu'en fait, ouais, c'est un nom d'emprunt. C'est un nom que vous avez choisi pour anonymiser votre enquête. Mais à quoi il ressemble ce terrain où vous avez enquêté ? C'est quoi les paysages autour ? À quoi ça ressemble les villages ?
Alors en fait, j'ai anonymisé mon terrain. C'est par un souci d'éthique en sociologie qui, en même temps, protège les enquêtés et puis aussi permet de ne pas se focaliser sur les cas individuels. C'est-à-dire que quand un lecteur vous dit, par exemple, moi, ce que vous dites là pour une petite partie de la région Grand Est, je le retrouve tout à fait dans le village où j'ai grandi, qui n'a pourtant rien à voir géographiquement, mais je retrouve les mêmes personnes, bah là ça me fait plaisir. Ou alors j'ai aussi des gens qui me disaient mais je sais où c'est exactement, c'est là, et non en fait c'est pas là, donc je me dis ça marche bien, l'anonymat marche. Et puis finalement l'idée de prendre un village, enfin de parler de Fombourg un peu en fil rouge pour restituer mon enquête, c'était davantage un outil narratif plutôt que quelque chose de concret, parce que mon enquête elle m'a amené à suivre les gens dans leurs déplacements quotidiens. Et aujourd'hui en milieu rural, vous vivez pas dans un seul et même village, c'est-à-dire que vous allez travailler souvent à 20 à 30 km de chez vous, vos amis sont dispersés sur tout le territoire. Quand on dit les gens d'ici, les gens du coin, c'est pas les gens d'un village, et les gens ils vous disent pas je suis de tel village. De toute façon ils sont amenés à avoir une vie qui les amène à faire des kilomètres. Pourquoi ? Parce que le travail, les services, tout ça, aujourd'hui, c'est éparpillé. C'est-à-dire que les jeunes sur lesquels j'ai enquêté, si leurs parents, ils allaient au travail en vélo, ils avaient trouvé leur compagne ou leur compagnon à quelques kilomètres en allant au bal du coin, bon, ça peut arriver encore pour certains jeunes, hein. Ben aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Par contre, on a tendance à élargir son périmètre d'activité. C'est permis aussi par la voiture, mais c'est contraint aussi.
Oui, parce que vous dites que c'est des zones qui ont été abandonnées aussi par les services publics. C'est pas les zones sur lesquelles vous avez enquêté, c'est loin des grandes villes, c'est loin de, donc pour la Haute-Marne, quoi, c'est loin de Langres, c'est loin de...
Oui, c'est des... Alors en fait, c'est vrai que je parle de la Haute-Marne, mais ça se passe, à vrai dire, à la frontière de plusieurs départements. On est sur des cantons qui sont loin des villes, qui attirent plutôt l'activité économique, et qui en plus ont été désindustrialisés, c'est-à-dire qu'avant, typiquement, vous aviez une usine implantée au milieu d'un canton, souvent qui constituait un petit bourg, et puis autour, les logements ouvriers, et toute la vie, même associative, les bars, etc., pouvaient s'organiser autour.
Les clubs sportifs, tout dépendait de l'usine, quoi.
Typiquement, les clubs sportifs, ils racontent beaucoup de l'histoire sociale, parce que quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'ils ont, par exemple, à maintenir des clubs de foot, ça tient au fait que l'environnement professionnel, il n'est plus là. Et quand l'usine, elle délocalise, c'est pas seulement l'usine qui s'en va, c'est tout ce qui va avec, les commerces, et puis c'est la jeunesse, la nouvelle génération entrante, elle n'envisage plus la vie au pays. C'est-à-dire qu'ils se disent il faut trouver d'autres perspectives d'avenir parce que maintenant, je me retrouve coincé. Et il y a des générations comme ça qui se retrouvent un peu pris dans une forme de crise, c'est-à-dire qu'ils s'étaient vus. Moi, j'ai enquêté sur eux à première vue. C'était d'ailleurs eux qui m'intéressaient. Je me suis dit, mais des jeunes avec qui j'étais à l'école, qui étaient typiquement les hommes les plus populaires, qui avaient beaucoup de succès, notamment avec les filles, qui se retrouvaient à 25 ans sur le carreau, dans des situations souvent compliquées. Il y avait plusieurs cas, notamment d'addiction à la drogue, parce qu'on est sur des départements, si vous prenez la Meuse, la Haute-Marne, enfin, dans les régions où peuvent se dérouler mes terrains, c'est en fait le taux de consommation d'héroïne le plus élevé par habitant. Ça, on n'a pas tendance à trop en parler dans les médias, c'est assez méconnu.
Non, à part que signale quand même un super documentaire qui a été fait sur Arte Radio qui s'appelle Poudreuse dans la Meuse.
Je vous encourage à
écouter. Bon. Ouais, c'est bien. En fait, c'est vraiment des zones dont on parle peu, qu'à moins d'en être issu, on a peu idée. C'est peu représenté même dans la culture et tout, j'ai l'impression.
Ouais, je me suis dit, si je le fais pas, il y a peu de chances en fait, qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Quoi.
Et juste en deux mots, ça ressemble à quoi les paysages
Ah oui, les paysages. En fait, on n'est pas dans le rural contemplatif quand on... Typiquement, il y a tout un milieu rural en France qui se repeuple, où il y a des néo-ruraux qui viennent, où il y a des classes supérieures, des classes moyennes cultivées. Mais ça, c'est le rural qui est beau, où il y a la mer, il y a des beaux paysages. Là, on est sur des grandes plaines céréalières, des zones industrielles. Voilà, moi j'aime bien. Mais c'est un style, mais disons que c'est pas là qu'on va construire des maisons secondaires en priorité. Sauf si on veut être tranquille, parce que c'est les régions qui se dépeuplent le plus en France. Et les jeunes s'en vont tellement que ça se dépeuple encore plus que pendant l'exode rural. Voilà. Et les jeunes qui s'en vont, évidemment, c'est ceux qui ont un peu de diplôme, qui ont fait des études, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir sur place.
Bon, il y a des jeunes qui restent. C'est ceux que vous avez étudiés.
Voilà.
Donc la bande à Boris, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement, parce qu'on va parler que d'eux pendant l'épisode, mais juste pour qu'on puisse les représenter, c'est quoi, c'est qui les gens de la bande à Boris?
Ouais, alors déjà, il faut que je les resitue dans où ils évoluent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon enquête sur un gros groupe d'interconnaissances. C'est ce qu'on appelle les enquêtes ethnographiques en sociologie. On essaye d'enquêter sur des groupes de gens qui se connaissent. Comme ça, on recoupe le point de vue des uns et des autres. Et c'est là que c'est intéressant pour étudier les normes et les valeurs d'un groupe. Donc là, il y a à peu près 200 jeunes qui se connaissent, qui sont du coin, qui interagissent sur différentes
scènes. Ils ont été à l'école ensemble, ils ont bossé ensemble.
Voilà, pour certains, ils sont sortis ensemble. Enfin bref, il y a eu plein de choses entre eux, ils ont travaillé ensemble. Et là, en fait, au sein même de cette interconnaissance-là, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte, mais c'est divisé en ce que les jeunes appellent des clans, ou des petits clans, ou des petites bandes de potes. Et donc, ils distinguent bien les saluts, ça va, les gens du coin, qui sont un peu obligés de fréquenter, mais presque par contrainte. C'est-à-dire qu'ils disent, on croise toujours les mêmes têtes, on est bien obligé de leur dire bonjour, mais au final, ça nous saoule un peu. Et par contre, on a les vrais potes sur qui on peut compter. Et la bande à Boris, c'est un de ces petits clans-là, et qui est un des plus valorisés. Pourquoi ? Parce qu'il est constitué de ceux qui ont la meilleure réputation, des jeunes qui ont bien réussi, notamment des hommes qui ont réussi à entrer très tôt, se stabiliser sur le marché matrimonial et professionnel. Et vu qu'en plus, ils sont tout le temps tous ensemble, en fait, ils augmentent cette espèce d'effet de réputation individuelle en formant une vraie bande de potes à laquelle beaucoup voudraient ressembler. Mmh. Et je sais pas, ils arrivent ensemble à ouvrir des locaux associatifs, à tenir plus ou moins un club de foot. Donc, ils sont visibles. On sait que c'est des bons gars qui travaillent et qui, en plus, sont des vrais amis, s'entraident les uns les autres.
Sont casés. Sont en couple, ouais. Sont père de famille.
Voilà, sont très fêtards, pratiquent différents sports, notamment des sports de combat. Ils sont dans le game, ils sont valorisés localement.
D'accord. Parce qu'il y a plusieurs formes de masculinité dans ces milieux, ouais. Dans le milieu rural. Est-ce que peut-être brièvement, vous voulez bien les exposer ? Quels sont les différents modèles auxquels on peut ressembler quand on est un homme dans un milieu rural ?
Ouais. En fait, les modèles, ils ont bougé. Parce que typiquement, moi, j'avais beaucoup de clash qui se passaient dans les familles entre le modèle du père, qui a été un ouvrier industriel. Si ce dernier, il a perdu son emploi et qu'il a connu une petite plus ou moins une descente aux enfers, le fils ne va pas vouloir lui ressembler. Donc en fait, il y a des stratégies comme ça, d'évitement carrément de la condition ouvrière, qui peuvent se retrouver dans la fuite vers les métiers de l'armée, notamment devenir pompier de Paris, dire que justement, on ne va pas prendre de cuite, on ne va pas boire trop d'alcool, on ne va surtout pas fumer de joint, par contre, on va faire de la muscu, avoir un corps sain, faire de la course de fond, etc. Et ça, c'est dans les familles, en fait, où on met vraiment à distance la figure ouvrière un peu déchue du père. De l'autre côté, il y a ceux qui arrivent à bien s'en sortir localement, sans être obligés d'être en conflit direct avec les parents qui viennent des familles plus stables, et qui, eux, en fait, ce qu'on va valoriser davantage qu'un type de discours ou une forme de masculinité hyper normée, ça va être de faire partie justement des bonnes bandes de potes et d'être, c'est ce qui revenait beaucoup dans les entretiens, un vrai pote sur qui compter. C'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait opposer ceux à qui on ne pouvait pas faire confiance, qui de toute façon ne pouvaient pas faire partie de la bande, et ceux qui faisaient qu'on pouvait faire passer les amis avant la famille, par exemple. Et je me rendais compte petit à petit que c'était pas simplement un discours sur l'amitié en tant que tel, mais il était là le discours sur la masculinité, parce que ceux qu'on excluait de ces bandes de potes, qu'on considérait pas dignes justement de l'amitié, ils étaient aussi niés dans leur masculinité. C'est-à-dire qu'on c'était ceux typiquement qui n'avaient pas de boulot depuis longtemps, qui pouvaient prendre de la drogue ou en tout cas étaient soupçonnés d'en prendre. Ben eux, c'était la figure du cas social qui revenait. Et il y a des confrontations directes quand vous êtes en milieu rural. C'est pas simplement, vous écrivez pas simplement sur Internet. Vous vous voyez dans la rue et vous alpaguez, vous vous insultez si vous vous aimez pas. Donc en fait, on se dit, bah, celui-là, c'est un schlag, celui-là, c'est un cassos.
Ils disent schlag.
Oui, ils disent en fait plein de mots qui viennent du milieu urbain, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ruraux, ils ont le même téléphone que vous et moi, ils regardent tout ce qui se passe. Je sais pas, moi typiquement, ça écoute du rap, ça écoute d'autres musiques aussi, pas mal de reggae, mais voilà, ça écoute les mêmes... Ça écoute la culture populaire, en fait.
Ça, c'est pour les masculinités chez les jeunes. Et après, en haute forme de masculinité disponible dans le milieu rural, il y a peut-être celui du petit notable, par exemple.
Ouais, alors là, le petit notable, lui, ce qu'il peut faire, c'est avoir un espèce de rôle. Parce qu'en fait, quand vous êtes en milieu rural, là, sur celui que j'ai enquêté, en tout cas, dans les territoires où j'enquête, il n'y a pas de grands bourgeois comme ça qui fréquentent les jeunes de classe populaire. Par contre, il y a une petite bourgeoisie à capital économique, par exemple les artisans ou même les agriculteurs. Et eux, ils peuvent un peu jouer le rôle de, nous, ce qu'on appelle en sociologie, les entrepreneurs de morale. Je pense que c'est un terme qui a du sens, parce qu'ils disent, par exemple, aux jeunes, si tu sais, aujourd'hui, il faut se mettre à son compte, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et avoir de l'argent par soi-même, ne pas avoir de patron, ou pouvoir dire merde à son patron, ça, c'est une une forme de masculinité super valorisée. Et d'ailleurs, dans les groupes de potes, on retrouve des discours là-dessus qui disent justement, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pu quitter plus tôt pour vous rejoindre à l'apéro parce que moi, de toute façon, je suis irremplaçable dans la boîte où je travaille. Et on retrouvait même des petites stratégies comme ça dans une même bande de potes où les gars vont se pistonner et vont se retrouver à travailler ensemble sur un même chantier et détourner ensemble un peu l'ordre patronal en disant, bah, il croit qu'on a fini à 17h alors qu'on a quitté le chantier à 14h et on est tranquille parce que justement, on est sûr qu'il n'y a personne qui va moucharder, qui va dire qu'on a un petit peu triché avec l'horaire. Et ça, c'est vachement valorisé, c'est d'avoir une forme d'autonomie très grande. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Il y a des enquêtés qui m'ont dit, ici, c'est la Corse sans la mer. Donc on valorise aussi d'habiter en milieu rural parce qu'il n'y a personne qui vient nous emmerder, personne ne vient nous dire comment nous comporter. On va râler contre les 80 km/h parce qu'on dit, on connaît nos routes, on sait comment rouler dessus. On n'est pas dangereux quand on roule un petit peu plus vite que 100, 110 à l'heure. Donc on sait ce qu'on fait, que personne ne vienne nous donner des leçons. Et ça, c'est vraiment l'idée de l'homme aussi accompli. Tant que ça ne va pas vers une déviance qui serait voilà, l'alcoolisme ou alors provoquer des accidents, la drogue, ben en fait c'est très valorisé de dire qu'on mène soi-même sa vie, alors même qu'on est dans un milieu populaire, qu'on travaille dans des métiers plutôt d'exécutants, mais là, dans ce milieu rural-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté directement à la figure du manager qui est au-dessus de vous, et finalement vous n'êtes pas aussi contredit dans la manière d'être un homme.
C'est pas comme les jeunes de cité alors ?
Bah, les jeunes de cité, moi j'avais travaillé là-dessus quand j'étais en master, ce qui me frappait, mon terrain c'était aussi d'ethnographie, j'allais souvent en soirée avec eux sur Paris. J'habitais dans la cité où j'enquêtais, et en fait ils venaient souvent me chercher en me disant « tiens, le sociologue vient avec nous, on va aller sur Paris ». Et en fait, bon, il y avait une forme de défiance, c'est-à-dire qu'ils se moquaient des bourgeois, ils s'amusaient à leur faire peur dans le métro, et ça pouvait marcher. Mais d'un autre côté, ils voyaient bien que c'était eux qui avaient... le plus de succès sur le marché de la drague, enfin les jeunes bourgeois justement, qui allaient avoir les meilleurs métiers. Donc il y avait d'autres formes en fait de masculinité qui invalidaient un peu la leur. Et ils se retrouvaient même à caricaturer parfois leur manière d'être quand ils étaient en confrontation avec d'autres classes sociales pour justement surjouer le mec de cité, viriliste, etc. Ce qu'ils étaient un petit peu moins dans l'entre-soi en fait, où il n'y avait que des jeunes de cité. Et je trouve que ça s'est un petit peu confirmé avec en milieu rural, puisque la masculinité légitime localement, c'est celle des jeunes de classe populaire qui composent la majeure partie en fait de la population locale. Là où j'enquête, on est dans les zones en France où il y a les proportions d'ouvriers et d'employés, si on les cumule, les plus fortes.
C'est 60% dans les endroits où vous enquêtez.
Ouais, même un peu plus, ça monte facile à 70% si on prend certains contextes locaux, mais après, j'ai pas les chiffres. Les chiffres sont par département, mais si je vous donne les chiffres par canton, vraiment, voilà, je garde l'anonymat du terrain, mais je peux vous dire que ça monte vite. Et les plus faibles proportions de cadres et de professions intellectuelles supérieures.
Ouais, donc il n'y a pas de confrontation à un autre type de masculinité.
C'est-à-dire qu'on ne se sent pas plouc, si vous voulez. On n'a pas la figure, on n'a pas quelqu'un qui nous renvoie à la figure du beauf.
Alors, où est-ce qu'ils se retrouvent, tous ces jeunes à la bande à Boris, et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce qu'ils se retrouvent dans les cafés? Est-ce qu'ils jouent, à quoi ils jouent? Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, ça c'est une question super importante, parce que moi au début de ma thèse, il y avait eu toute une série de reportages qui s'étaient faites très près de mon terrain, et je ne sais plus quel journal c'était, je crois que c'était Rue 89, et qui avait conclu dans ces villages de Haute-Marne, on vote FN et on ne s'aime pas. Et bon, quand on voyait l'argument un petit peu journalistique, qui n'était pas complètement faux, mais il disait, il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus de bars, tout a fermé, il n'y a plus de sociabilité, donc les gens, ils se craignent les uns les autres. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de dire, c'était qu'effectivement, les bars, ils ont fermé. Si vous prenez, j'avais mis la carte de France des bars dans ma thèse, parce que je trouvais que c'était assez parlant. Si vous prenez les milieux ruraux de l'ouest de la France, qui sont vachement dynamiques, il y a des bars partout, on voit que les gens sortent encore se voir dehors. Mais là, en fait, il n'y a plus rien. Ou alors le bar, il y en a un ou deux, mais c'est réservé aux vieux du coin et c'est plutôt associé à quelqu'un qui serait dépendant au jeu de grattage, par exemple, à la Française des Jeux, ou alors à l'alcool. Et donc, c'est pas valorisant de se réunir là. Et aussi, ces jeunes-là, ils ont commencé à subir des formes de répression, notamment policières, quand ils se réunissaient dans la rue, quand ils étaient ados, parce que il y avait la suspicion de la drogue, et aussi parce que toute l'interconnaissance, la petite veille rurale qu'il pouvait y avoir avant, quand il y avait de l'emploi, que tout allait bien, ben, elle s'est un peu cassée la figure à mesure qu'on a commencé à se méfier des jeunes qui habitaient le village, qu'il y avait aussi des populations précaires, notamment qui venaient de cités HLM, de grandes villes aux alentours, mais qui étaient rapatriées dans des logements insalubres en milieu rural pour vivre leur pauvreté. Bah, tout ça, en fait, ça a créé des crispations. On a pointé du doigt une population très précaire des milieux populaires qui faisait un petit peu la minorité du pire qui fait peur. Et donc, ces jeunes-là, ils s'en rappellent, ils ont pu la vivre, cette stigmatisation. Et pour eux, c'est plus aller jouer dans le village ou se rencontrer dans le village, c'est traîner dans les rues. Donc, on ne veut pas traîner dans la rue. Traîner dans la rue, c'est dévalorisant.
Donc ça, c'est les précaires et ceux qui sont considérés comme les schlags, les cassos, c'est tout qui traînent.
Ou alors, en fait, vu que c'est des jeunes de classe populaire, ils ont vécu ça, mais à l'adolescence. Et maintenant qu'ils ont un statut un peu stable, qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, et en plus, vu que c'est des gars qui savent travailler de leurs mains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une maison, puisqu'on est dans les régions où le bâti est le moins cher de France. Donc vous achetez une maison pour vraiment le prix d'une place de parking ici. Je pense qu'on a une belle baraque là-bas.
40 000 euros
Ouais, pour 40 000 euros, vous avez une petite maison de 80 mètres carrés, quoi. Après, bon, si vous mettez 80 000, vous avez une grande maison. Et donc, ils retapent leur maison eux-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là, dans la maison dans laquelle on a investi, dans laquelle aussi on peut montrer qu'on est un gars qui sait bosser, qu'a des copains pour l'aider, parce que souvent, ça se fait sur des chantiers, on paye un peu les copains au black, ou on les paye pas, on les paye en pastis, et tout le monde vient donner un coup de main. Puis il y en a un qui est carreleur, un qui est électricien, l'autre qui est maçon, donc ça va, ça peut aller très vite. Et puis après, en fait, cette maison-là, elle
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sert à l'accueil de la bande de potes. Typiquement, Boris, lui, c'est un gars qui avait très bien compris ça, et sa maison, elle a toujours été aménagée pour l'accueil des sociabilités du groupe. C'est quand vous rentrez chez lui, vous avez l'impression parfois que c'est une salle de jeu pour adultes. C'est-à-dire qu'en plein milieu, il y a un bar, où on peut avec un accoudoir, comme ça, on peut tous se poser. Il y a un billard au milieu, il y a des jeux de fléchettes, il y a des très grands canapés, c'est ouvert sur l'extérieur pour que tout le monde voit que les copains sont là, pour bien montrer qu'on est comme ça, dans un clan soudé où on se voit 4-5 fois par semaine. Donc finalement, les bars, ils sont là. Ils sont là de manière informelle.
Gens, en fait.
Mais ils ont été remplacés par ils disent d'aller chez les uns les autres. Et moi, je trouve ça fort parce qu'effectivement, quand on rentre, dans un article, je raconte ça, il y a une fille qui dit « Moi, j'ai l'impression que mes volets, ils sont transparents. » Parce qu'elle ferme ses volets pour pas que les amis de son copain viennent tout le temps. Et en fait, ils font comme s'ils voyaient pas que c'était fermé. Ils toquent un coup au volet et ils rentrent sans... Ils clenchent la porte sans demander à entrer. Et donc elle subit un petit peu cet envahissement masculin de son foyer. Mais ouais, clairement, ça se passe dans la maison maintenant.
Il y a plein de choses là dans ce que vous venez de dire, à la fois sur le fait que donc dans la même bande, il y a des professions qui sont complémentaires les unes des autres, et aussi le fait que les femmes n'ont pas l'air de décider de grand-chose. Peut-être qu'on va commencer par parler des femmes et des enfants, parce que la masculinité, c'est aussi toujours un rapport aux femmes, aux copines, aux conjointes. Et donc, d'un côté, dans votre bande, la bande que vous étudiez, c'est mal vu d'être célibataire. D'après ce que j'ai compris. Mais de l'autre, il ne faut surtout pas avoir l'air d'être dominé par sa femme. D'ailleurs, ils ont une expression pour ça, c'est
elle lui a mis la laisse. Elle lui a mis la laisse. Alors, elle lui a mis la laisse, c'est une expression qui est très parlante et qui est en fait... qui concerne peu de cas d'enquêtés que j'ai rencontrés, tout simplement parce que ça tient au fait que c'est la femme qui décide, ça veut dire en fait qu'on avait un copain qui faisait partie de la bande, qui était là régulièrement, parce que pour faire partie de la bande, concrètement, il faut arriver à consacrer du temps aux amis.
Oui, parce que vous parlez 4-5 fois par semaine, c'est beaucoup
quand
même.
Mais oui, on se voit tout le temps. Ouais. On se voit tout le temps, et en fait, on a tout le temps des choses à se dire, parce qu'on vit aussi la même chose, et du coup, le coût de ça, c'est d'arriver à aménager du temps par rapport au temps conjugal. Souvent, celui qui se fait retirer des sociabilités masculines et de l'extérieur, on a l'impression que c'est sa femme qui a décidé, c'est la honte pour lui. On va dire, c'est elle qui lui a mis la laisse, donc c'est le petit chien. Et comme par hasard, ces cas-là, c'était des couples de ce qu'on appelle l'hypogamie féminine, c'est-à-dire que c'est la femme qui gagne plus d'argent, qui a un meilleur statut professionnel que l'homme. Donc c'est relativement rare, en fait, en milieu rural, parce que la majorité des emplois sont considérés comme masculins. Les emplois ouvriers sont plutôt bien rémunérés et on peut vite arriver à gagner bien sa vie en faisant du black le week-end si on a une bonne réputation. Moi, j'enquête typiquement sur ces gars-là qui gagnent quand même bien leur vie, qui ont très tôt accès à la propriété, alors même que les femmes, elles, elles ont du mal à accéder au marché de l'emploi parce que ce dernier, il est essentiellement composé en emplois très précaires de secteurs de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire vous vous occupez des vieux, quoi, parce que c'est des emplois, c'est des départements vieillissants et c'est pas des boulots valorisants pour les femmes, c'est-à-dire que bah, très mal payé, vous travaillez à mi-temps, etc. Mmh. Et puis en plus, personne vous voit aller faire la toilette d'un vieux à 15 km de chez vous. Par contre, les emplois masculins, typiquement le jeune maçon qui va refaire un mur dans le village, tout le monde klaxonne toute la journée, le voit bosser, lui apporte une canette et dit ah, t'as vu le bon jeune, il travaille bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier pour une jeune fille d'équivalent, à part peut-être celle qui va tenir la caisse à la boulangerie, voilà. Ouais, ouais, ça, c'est un bon exemple.
Ou la pharmacie.
C'est quand même relativement peu valorisant, c'est-à-dire qu'on va pas dire ah, elle a un savoir-faire en rendant la monnaie. Vous voyez, alors même que c'est, il n'y a pas de métier plus compliqué qu'un autre, mais on va trouver que, par exemple, on va me dire ah bah celui-là, il a des mains en or, parce que en fait, il taloche un mur à toute vitesse et puis des gens le voient travailler.
Ok, donc c'est une bande, une sociabilité qui est dominée par les hommes.
Ouais.
C'est eux qui imposent la sociabilité à leur conjointe, à leur compagne. Donc il y a toujours les copains qui sont là à la maison, etc. Par rapport aux enfants, quel est le rôle de la paternité dans la bande à Boris ?
Alors la paternité, en fait, elle arrive, moi je la voyais comme quelque chose qui allait un peu saper toute cette dynamique-là d'une bande qui s'est construite autour des hommes. Ça, c'est important, je ne l'ai pas trop dit avant, je pense qu'il faut le préciser. Si elle tourne autour des hommes, cette sociabilité-là, c'est parce qu'en fait, eux, ils sont restés dans une certaine forme de localisme, dans le village où ils ont grandi ou dans le canton. Ils ont été propriétaires de la maison, ils ont plus souvent hérité de la maison d'ailleurs que leur sœur. Et ils se mettent en couple avec des filles plus jeunes, qui souvent n'ont pas encore le permis de conduire quand ils se mettent en couple. Donc c'est elle qui les rejoint dans leur bande. Et dans leur village.
Donc les filles, c'est des pièces rapportées, quoi.
Bah, elles se vivent comme des pièces rapportées. Elles disent j'ai coupé des ponts, etc. Donc elles arrivent, il faut qu'elles recomposent. Donc il y a des filles dans la bande, mais elles ne les connaissent pas forcément. Et du coup, moi, je voyais les enfants comme quelque chose de... J'avais une fille, par exemple, en entretien, une jeune femme qui me dit « J'ai fait un enfant pour le tenir ». Mais je dis « Comment ça, pour le tenir ?» Bah, pour qu'il aille moins vers ses potes. Et l'idée d'être enceinte, de le ramener vers les obligations conjugales, vers une vie plus posée, elle me dit « J'ai juste envie qu'on soit posé, parce que s'ils étaient dans la mouise financièrement, lui, il voulait pas prendre de boulot à long terme, parce qu'il voulait dire merde au patron, aller jouer au foot et aller à la chasse le week-end. » Donc ça, évidemment, elle qui était dans la précarité et qu'en avait peur, elle voyait l'enfant comme un moyen de le tenir. Et puis en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était pas la majorité des cas où ça se passait comme ça, parce que là encore, les hommes avaient largement leur mot à dire sur l'arrivée de l'enfant, et que en fait, ils se mettaient à tous avoir des enfants au même moment dans un clan ou dans une petite bande, parce que dès qu'il y en avait un qui se réalisait comme ça, notamment si c'était Boris, par exemple, qui était un peu le chef charismatique de la bande, bah lui, quand il a commencé à avoir des enfants, et qu'il le valorisait, que ses enfants, c'était un peu les petits protégés de la bande. Ils étaient nés dans la bande et ils participaient à tout ça, en fait. Bah, les autres aussi se sont lancés dans la carrière paternelle. Et il y en a un, par exemple, c'est assez touchant, à son anniversaire, il a 30 ans, et il dit « Je suis le seul à pas m'être casé ». Et du coup, ça fait un mois ou deux qu'il est avec une fille qui est plus âgée que lui, ça doit être une jeune femme de 34 ans, qui a un boulot stable. Et il dit « Je sais que c'est pas la mieux ». Comme ça, parce qu'il nous regarde entre mecs, donc il fait cette espèce d'aveu. Parce que lui, c'est vrai que il avait une réputation très dragueur, d'arriver à sortir avec les filles qu'il voulait. Mais le problème, c'est qu'il s'est jamais posé. Il a voulu vivre sa jeunesse, et aujourd'hui beaucoup de ses ex, c'est les femmes de ses amis, en fait, typiquement, parce qu'on est sur un marché du travail matrimonial assez petit, en fait. Donc tout le monde se connaît, et là il nous dit il faut que je me dépêche, parce que j'ai envie que ça soit mon tour à moi aussi. Et il ressent cette pression là vis-à-vis des modèles masculins qu'il y a autour de lui. Donc c'est là où ça parle, je pense, le localisme dans la masculinité. C'est que il va pas regarder JQ pour voir comment est coiffé David Beckham pour se dire ça, c'est ça la masculinité. Ça peut influencer indirectement, les idées, elles voyagent. Mais par contre, quand est-ce qu'on va prendre concrètement la décision d'avoir des stratégies de vie orientées vers ça, devenir père? C'est quand on est au contact, en fait, d'amis qui comptent pour nous et qui nous renvoient un modèle qu'on n'arrive pas à atteindre, en fait.
Est-ce que ça, c'est spécifique au milieu populaire ou au milieu rural? Parce qu'on pourrait dire que c'est pareil.
Non, c'est pas spécifique au milieu populaire ni au milieu rural. Simplement, au milieu populaire, en fait, ce modèle-là, c'est celui qui est présent. C'est le modèle des classes populaires. Mmh. Alors que quand vous habitez en ville, il y a eu des enquêtes là-dessus. Enfin, par exemple, les ouvriers à Paris, il y a une belle enquête sur les ouvriers de la RATP, par exemple, de Martin Thibault, qui montre comment ils sont attirés par la petite bourgeoisie à capital culturel. Typiquement, comment ces gars-là, ils veulent sortir avec des étudiantes. Alors que là, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi.
Et vous, d'ailleurs, comme étudiant, vous étiez considéré comment?
En termes de masculinité même, c'est intéressant parce que si on est étudiant, déjà, on a une trajectoire féminine. C'est-à-dire que quand j'ai parlé tout à l'heure que les étudiants ils partaient massivement de ces régions rurales désindustrialisées, c'est surtout des femmes, en fait, qui partent. Mmh. Parce qu'on est sur des régions populaires, en milieu populaire, ceux qui font des études, c'est surtout les femmes qui vont un peu plus loin dans le jeu scolaire, etc., même si ça ne se concrétise pas forcément sur le marché du travail. Donc déjà, il y a une forme de mise à l'épreuve. Clairement, moi, il a fallu que pour réaliser mon enquête, être accepté dans les groupes d'amis. Je me suis fait beaucoup d'amis à l'occasion de la thèse. J'en avais aussi des qui me connaissaient d'avant. Mais il a fallu que je fasse des activités, c'est-à-dire que je donne des coups de main sur différents chantiers, que j'aille jouer au foot. Enfin, il faut aussi un petit peu faire ses preuves et puis on est testé là-dessus. Et en plus, l'attitude d'un sociologue qui fait des longs entretiens en individuel, elle est très féminine finalement, parce que c'est poser des questions, s'intéresser comme ça à une trajectoire. Moi, on me disait, mais comment tu fais pour les écouter parler tout le temps? Ou alors on me disait, mais le passé, c'est le passé, on va pas ressasser comme des gonzesses. Il y avait des phrases comme ça qui me revenaient. Ou alors on pouvait dire, mais pourquoi tu vas passer autant de temps avec des hommes? Et ça, c'était une mise à l'épreuve un petit peu de la virilité. Et moi, je savais rebondir là-dessus, mais en fait, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans, quoi.
Ce que je trouve aussi intéressant dans votre enquête, c'est qu'on a tendance, dans les médias, le monde universitaire, la culture, à imaginer, à se figurer un peu paresseusement que les hommes des classes populaires ont une virilité primaire et violente. Bref, que ce sont des beaufs, en fait. Ouais. Évidemment, c'est un classisme, une forme de mépris de classe, puisque tous les milieux que je viens de citer, et donc moi y compris, hein, c'est les milieux dont les membres sont majoritairement issus des classes sociales supérieures. Et ce que vous montrez et ce que vous expliquez aussi, c'est que, cette masculinité populaire, elle n'est pas plus sexiste, plus homophobe, plus raciste que les autres. Au contraire, même, vous me disiez.
Je ne vais pas dire au contraire, parce qu'en fait, vu que, notamment aussi parce que c'est le milieu d'où je viens et parce que ça me tient à cœur de leur donner une voix, de les défendre, mais je pense qu'il faut aussi dénoncer quand il y a le racisme en milieu populaire, il existe évidemment. Mais par contre, en fait, c'est des groupes qui parlent beaucoup moins que d'autres, qui ne se donnent pas les moyens de se représenter eux-mêmes. Donc, c'est les autres qui les définissent. Mmh. Et typiquement, si vous leur tendez un micro, demain, je vous amène faire un reportage dans les villages où j'ai enquêté, vous leur demandez ce qu'ils pensent des immigrés, et on va avoir tous les clichés qu'on entend tout le temps. Donc ça, voilà, je peux pas le nier. Mais d'un autre côté, les milieux populaires, et notamment en milieu rural industriel, ça s'est construit par l'immigration. Je sais pas, typiquement, ils vont avoir des propos en se disant « je suis 100% Le Pen », alors même qu'ils ne vont pas voter pour la plupart d'entre eux, enfin, en tout cas chez mes enquêtés, mais aussi par provocation, souvent, ils vont dire qu'ils sont en affinité avec Le Pen. Mais d'un autre côté, parmi leurs meilleurs amis, il y a des jeunes qui sont d'origine nord-africaine, parce qu'il y a une immigration algérienne et tunisienne, notamment dans les coins où j'ai enquêté. Et ils font partie du « nous » de la bande. Ils font partie de « c'est le loulou, mon ami, mon vrai pote ». Donc il y a toute cette contradiction-là, en fait, entre les discours qu'on peut enregistrer, et puis quand on regarde les pratiques, eh ben, on voit des différences. Et de la même manière, en fait, sur les rapports, on peut avoir des paroles très sexistes comme ça, notamment dans les insultes que les gars se lancent, c'est tout le temps des insultes sexistes.
Et homophobes.
Et homophobes, ouais. Et malgré tout, en fait, je sais pas, par exemple, dans la place qui est accordée aux femmes dans les sociabilités, il y a une mise à l'écart. On va les mettre à l'écart, mais elle n'est pas pensée, cette mise à l'écart. Et puis, en fait, il y a des filles qui arrivent à prendre leur place dans ces sociabilités-là, à s'affirmer et à être considérées comme les grandes gueules qu'on va écouter. Par exemple, il y avait une petite bande de copains sur lesquels j'ai pas mal enquêté, qui est un petit clan qui était dominé un petit peu par le clan Aboris. Mais une des seules filles du groupe, elle se fait énormément d'amis mecs. Et son mari fait partie de la bande. Et c'est elle que le groupe va aller pousser pour qu'elle se présente aux élections municipales dans son village. Et elle va s'y présenter, pourquoi ? Parce qu'on dit, elle a vraiment la tchatche, elle a une grande gueule, et c'est les mecs qui disent ça. Elle parle mieux que nous, et en même temps, elle sait se contrôler. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas aller au conseil municipal parce qu'ils disent, ça partirait en cacahuète, si on s'embrouille, on n'arrivera pas à se contrôler, cette espèce de truc. Alors que ce n'est pas vrai, en fait, dans plein de situations, il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais là, on valorisait des qualités féminines, et finalement, il y a plein de milieux sociaux où on va vous dire, oui, moi, je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes, mais par contre, on ne donne pas aux femmes les positions dirigeantes, vous voyez ? Alors que là, c'est elle qui est envoyée sur le devant de la scène au nom de sa petite bande de copains pour la représenter.
Et vous disiez aussi que vous aviez été plus témoin, enfin, si j'ai bien compris, mais que dans l'entre-soi masculin, des classes sociales supérieures peuvent être plus violents et plus misogynes que l'entre-soi masculin que vous connaissez dans votre milieu d'origine.
Ben, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que une fois qu'on fait partie de la bande d'amis, qu'on a une bonne réputation, qu'on n'a plus rien à prouver, que de toute façon, y a une interconnaissance forte, tout le monde se connaît depuis l'enfance, il n'y a pas besoin de surjouer une espèce de virilité hyper misogyne en ayant plein de propos, par exemple, je ne sais pas moi, sur ces conquêtes sexuelles qu'on va décrire dans le détail, etc. Alors même qu'en fait, quand vous êtes dans des milieux, je ne sais pas, typiquement le milieu étudiant, où les gens ne se connaissent pas trop, où on a l'impression que enfin, je pense que beaucoup de jeunes de classe moyenne cultivés vivent leur rapport, par exemple, au féminisme, comme dire, bah, voilà, il y a une espèce de forme de retenue à avoir devant les femmes, mais par contre, quand on est entre mecs, ça se lâche. Et moi, ça m'a choqué, parce que j'ai cru qu'il y avait une forme de cohérence entre, en fait, la manière de se comporter en présence des femmes et les propos dans l'entre-soi masculin, parce que je la vivais, cette cohérence en milieu rural. Alors que j'ai l'impression que les personnes qui maîtrisent mieux toute la sémantique autour du politiquement correct, elles arrivent à avoir un petit peu un discours caché selon en fait qui y a dans la pièce, devant qui on parle. Alors que moi, typiquement les enquêtés, de la même manière, ils vont parler des Arabes s'il y a un copain à eux qui est considéré comme arabe à côté d'eux ou s'il n'est pas là. Il n'y a pas de filtre en fait.
Ouais, c'est moins hypocrite.
C'est moins hypocrite, c'est aussi plus violent si vous n'êtes pas de ce milieu-là, et c'est moins violent si vous êtes de ce milieu-là. La violence sociale, on l'aperçoit toujours chez les autres, en fait. Quand vous demandez, je sais pas, en milieu populaire, dans les stratégies éducatives, on va dire prendre une claque, c'était pas violent, parce que c'était ma mère qui me la mettait, et puis je sais qu'elle m'aimait. Je sais pas, vous avez plein d'entretiens qui racontent ça.
Bien sûr. C'est passionnant, mais on arrive à la fin de l'épisode, et il y a deux questions que j'aimerais encore vous poser. Qu'est-ce que vous, personnellement, ça vous a apporté en tant qu'homme ? D'étudier les masculinités.
Ben moi déjà ça m'a en fait bon l'étude des masculinités moi je la découvre sur le tard au moment où ma thèse est déjà très avancée. Je vois qu'il y a d'ailleurs un champ de recherche sur les masculinités par un ami avec qui je commence à travailler et qui lui en a fait son sujet de prédilection. Et moi, ce qui m'a plutôt interrogé, en fait, là-dedans, c'est pas la masculinité en tant que telle, c'est pas les études sur la masculinité, c'est avoir un regard réflexif, en fait, sur le milieu dont moi-même j'étais originaire et qu'est-ce que ça voulait dire d'être un homme pour les personnes qui venaient de ce milieu-là. Et donc, à toutes les formes de mépris ou de mise à l'écart qu'on peut avoir quand on est un petit peu en mobilité sociale, qu'on a changé, qu'on a passé du milieu rural à la ville, ben là on passe à une forme compréhensive. Et en fait ça vous permet de résoudre beaucoup de questions que vous aviez sur vous-même et de tensions en plus que vous pouviez avoir avec votre milieu d'origine. Et moi je conseille en fait la démarche sociologique à tous ceux qui ont des questions à régler. Et on le voit bien, moi je donne...
Vous dire que c'est thérapeutique de faire de la sociologie ?
Je pense que c'est très thérapeutique, non seulement par exemple pour les enquêtés quand on fait un entretien rétrospectif sur leur vie, ils disent souvent ça m'a fait du bien, et je pense qu'ils le disent sincèrement parce qu'ils disent ça m'a fait comprendre des choses, alors même que j'ai pas ouvert la bouche la plupart du temps, je relance très peu, je les laisse parler, mais c'est parce que eux-mêmes se sont mis dans une posture réflexive qui leur permet de comprendre comment ça se fait que par exemple mon père, je le trouvais vraiment comme un gros bouffe. Si on comprend un petit peu ses conditions de vie, comment il a été élevé et puis nous à quoi on aspirait à l'époque, je pense qu'on va arriver à répondre à pas mal de nos tensions. Et on le retrouve chez les étudiants, ceux qui vont se passionner le plus pour l'analyse un petit peu parfois brutale de la sociologie parce qu'elle vous ramène à la réalité, mais c'est ceux qui ont changé de milieu, qui ont eu une vie parfois un petit peu chaotique, alors que celui pour qui tout va bien, c'est typiquement celui qui est hégémonique sous différents points de vue. Il n'a pas à se remettre en question. Pour lui, tout va bien, et la remise en cause et la compréhension de ce qu'il est, justement, lui ferait perdre pied. Alors que quand on a tendance à se sentir fragilisé sur pas mal d'aspects de sa vie, le mettre à distance, l'objectiver, là, ça redonne de la force. C'est tout le rapport au déterminisme, je pense, qu'il faut cultiver. C'est de se dire, ouais, on est déterminé. Oui, on a été formé à être des hommes comme ci, comme ça. Mais si on arrive à le comprendre, plutôt que de dire que du jour au lendemain, on serait devenu des féministes éclairées juste en lisant un bouquin, bah, je pense qu'on va arriver à être plus proche, en fait, de situations où on se libère vraiment, plutôt que de proclamer la liberté comme ça, comme si elle nous arrivait, comme si elle nous arrivait de fait, quoi.
Pour terminer, je vous pose cette question que j'aime à poser aux invités pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse prolonger la réflexion. Quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs?
Ouais, ça sera une chanson d'MC Circulaire, qui est un rappeur vendéen, un rappeur rural. Bon, alors, je vous conseille pas toute la discographie, voilà, mais en tout cas, il a écrit une chanson qui s'appelle « Demain, c'est trop tard », qui est un peu le « Demain, c'est loin » d'Ayam, mais version rurale, et qui, moi, me parle beaucoup. Voilà, c'est l'histoire de jeunes assis sur un banc à l'arrêt de car, qui attendent qu'une mobylette passe, et qui s'ennuient, et qui parlent notamment des rapports aux femmes, de manière un peu caricaturale, mais en tout cas, il en a gros sur la patate, et je pense que ça parle à pas mal de jeunes qu'on grandit en milieu rural, donc je vous conseille ça.
Ici, on picole pas, on se saborde, ici l'alcool, c'est quand t'as pas les couilles pour la corde, alors avoir une vie sobre, j'en ai fait le deuil, hardcore et la campagne, froid sera mon cercueil, je n'ai dans mes yeux plus aucune lueur d'espoir, car ici-bas, on sait bien que demain, c'est trop tard.
Merci beaucoup, Benoît Coquart.
Ouais, merci.
C'était le 28e épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Toutes les références qu'on a évoquées sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio, binge.audio. Vous pouvez liker la page Facebook des Couilles sur la table, nous suivre sur Twitter et sur SoundCloud, nous écouter sur vos ordinateurs et vos téléphones, laisser des commentaires un peu partout. On est toujours très curieux de savoir ce que vous avez pensé des conversations et des épisodes. Et puis vous pouvez m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio, Quentin Bresson s'occupe du son et Camille Regage de l'édition. Merci beaucoup. Binge.